Voilà, donc aujourd'hui, pour cette dernière séance de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Albert-Roncin, que vous connaissez déjà pour l'avoir écoutée en juin 2018 sur Yvan Goll. Et nous avions eu tellement de plaisir à l'écouter sur Yvan Goll que voilà, le comité Aliénor a décidé de la réinviter pour parler de Claire Goll, son épouse, qui était également poète, et elle va tout vous expliquer. Pour ce qui est de Nadine, Nadine a fait une carrière de bibliothécaire à la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges en tant que responsable de la conservation du patrimoine. Et elle est également, depuis 2007, c'est-à-dire depuis 15 ans, présidente des Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll. C'est vous dire si elle est avisée et savante sur le sujet. Mais très concrètement, elle est très active au sujet de l'œuvre d'Yvan Goll, d'Yvan et de Claire Goll, et avec tout le groupe des Amis de la Fondation, elle a à cœur de rééditer l'œuvre d'Yvan et de Claire Goll, de la faire connaître, et pour cela d'organiser des spectacles, des animations et bien sûr des publications. Voilà, je laisse la parole à Nadine et merci d'avance.
Merci Béatrice pour cette présentation. Bonjour à tous. En effet, c'est avec beaucoup de plaisir que j'en retrouve certaines personnes qui étaient déjà présentes lors de la première conférence sur Yvan Goll. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Claire, son épouse, sachant que ce couple très particulier, indissociable tant sur le plan affectif que littéraire, est vraiment très étroitement lié et qu'il est toujours très difficile de parler de Claire sans parler d'Yvan et réciproquement. Donc il est certain qu'on fera souvent allusion à Yvan, c'est vraiment impossible de faire autrement. Bien, et bien écoutez, vous pourrez éventuellement poser des questions à la fin, il n'y a aucun souci, mais je vais commencer sans plus tarder. Donc, Clarissa, Clara, Claire, Liliane, Suzu et Suzu. Qui est la véritable Claire? Qui se cache derrière tous ces prénoms, ces surnoms, qui ont jalonné toutes les années de cette femme, de l'enfance à un âge très avancé? Cette femme sensible et engagée, traumatisée par une enfance volée, une jeune femme en quête d'amour, une femme transformée en égérie. Il est temps de se souvenir de la femme qui, durant 33 ans, a partagé la vie du poète Yvan Goll et qui, de plus, jusqu'à sa propre mort en 1977, se qualifiait de secrétaire d'un mort, fonction qu'elle exerça du reste scrupuleusement. Je veux parler de Claire Goll. À l'état civil, le prénom déclaré est Clara. Nous reviendrons au cours de cette conférence sur l'origine des différents prénoms ou surnoms qui ont jalonné le parcours de la vie littéraire. Née le 29 octobre 1890 à Nuremberg, au cœur de la Bavière romantique et médiévale, Clara est une petite fille aux cheveux roux, aux yeux verts, au cœur indiscipliné. Peu après sa naissance, ses parents devaient se fixer à Munich. Son père était un gros négociant. Cependant, il portait le titre de consul d'Argentine en raison de ses relations avec ce pays d'Amérique où il exportait le houblon bavarois et le malt. Pour le bonheur de Claire, il y avait toutefois un intellectuel dans la famille, son oncle, le philosophe Max Scheler, qui lui dit un jour prophétiquement, quand elle n'avait que 12 ans, « Mon enfant, il faut tremper ta plume dans tes larmes. » Sa mère était de trois quarts de descendance juive, mais elle avait reçu par la main gauche le sang d'un général allemand. Ce général lui a probablement légué la fureur teutonique qui terrorisait ses enfants. Claire Goll évoque son enfance douloureuse, dont celle d'Olivier Twist, de Poil de Carotte, ou de Vipère au Poing, d'Hervé Bazin, ne peuvent donner qu'une faible idée. Elle fut élevée entre un père qui l'aimait et qui pourtant n'avait pas le courage de la défendre. Et cette mégère en furie, cette mère autoritaire, inhumaine, sadique et envieuse, qui ne cessa de lui inspirer une crainte constante en même temps qu'une sorte étrange de haine et d'amour. Selon le mot de Freud, d'ailleurs. Car l'enfant ne pouvait s'empêcher d'admirer obscurément cette femme belle et forte, surnommée par les serviteurs et les enfants Madame Néron, à laquelle ne l'unissait aucune intimité familiale. Combien j'aurais voulu malgré tout pouvoir l'aimer, pensait l'enfant fragile, battu et détesté. Peut-être est-ce à cette éducation monstrueuse que Clara dut demeurer toujours une petite fille, mal guérie de l'enfance. Ne fit-elle pas à 15 ans une tentative de suicide ? D'ailleurs, son frère, son ami de 4 ans, son aîné, n'allait-il pas à son tour se donner la mort ? Ce thème de la mère qui tortura la hantera toute sa vie. Elle fera le récit de son enfance douloureuse dans deux ouvrages, Le ciel volé, paru chez Fayard en 1958, et dans Ballerine de la peur, publié chez Émile Paul en 1971. Je vais vous lire un extrait de Ballerine de la peur, qui est très très dur. Et vraiment, je pense qu'on a du mal à imaginer ce qu'une mère peut faire subir à un enfant. Je vous dis, c'est un petit peu long, mais je pense que ça a le mérite de faire connaître par la suite le parcours et cette femme, finalement, comment elle a eu cette relation avec différents hommes, ce parcours torturé. C'est sa mère qui parle au départ. J'ai rencontré hier au théâtre tante Einstein. Tu as dit à sa fille, « Maman est aussi cruelle que la marâtre de Blanche-Neige. Voilà que tu deviens déjà blanche comme la neige. Par conséquent, c'est vrai. » Le pénible interrogatoire continua. « Et que réponds-tu ? » Comme d'habitude, devant cette figure furibonde, la peur me faisait bégayer. Elle me frappa au visage. « Ta bouche est-elle collée ? Va chercher la verge et rends-toi dans ta chambre. » « Je ne l'ai pas dit, maman, et tu ne peux pas me battre aujourd'hui, » ajoutai-je dans un souffle. « Que dis-tu, impertinente ? Je ne peux pas. Je suis indisposée. » « Voyez-vous ça, Blanche-Neige rougit. En ce cas, je te fesserai à main nue. » « Non, non, pas aujourd'hui, je me tordis les mains, à moitié étouffée par la honte. Tu n'as pas le droit de me battre aujourd'hui. Comment me parles-tu ? Prétends-tu me donner des ordres, insolente ? En avant. » Elle m'empoigna par la main et m'entraîna derrière elle. Pourtant, je me débattais comme un petit veau qu'on mène à l'abattoir. Traversée du petit salon, du couloir, là je me cramponnais à un porte-manteau dont les deux hautes colonnes étaient séparées par une commode où on avait caché un instrument pour se défendre éventuellement contre un cambrioleur. Deux petites boules de fer reliées par une poignée élastique tressé en caoutchouc. Me défendre avec le casse-tête, je levai le couvercle. Au bruit, maman se retourna. Elle m'arracha du porte-manteau. Elle cria, « N'essayais-tu pas de tirer la massue du fer de la commode ?» Je me cramponnais seulement pour... Elle ne me laissait pas achever. Déjà les coups grêlés sur ma tête, que je cherchais vainement à protéger de mes mains. Pendant quelques secondes ou quelques minutes, je vacillais de ci, de là, abruti par la douleur. Avant de savoir ce qui m'arrivait, j'eus la main droite solidement attachée par une forte corde à l'un des montants de chêne du grand lit de mes parents. Qu'allait-elle faire de moi ? Comme une victime des Indiens liée à un poteau, je restais immobile et tremblante. « Tu vois, railla-t-elle, je tiens compte de ton état, je ne punirai que ta main qui a voulu se lever contre moi. » Ta main gauche, tu as besoin de la droite pour tes devoirs scolaires. Mais droite ou gauche, après 20 coups de verge, la douleur sera la même. Tout en fouillant dans sa grande armoire à glace où elle rangeait ses instruments de torture, elle continua, tu n'es pas Blanche-Neige et je suis ta mère. Je ne suis pas aussi cruelle que la belle-mère du comte qui voulait tuer l'enfant. Je ne m'empare pas du coup de poing américain comme toi, mais seulement du bambou espagnol. Elle fit siffler le jonc plusieurs fois en l'air. Ce sifflement lui procurait visiblement un avant-goût de jouissance. Elle voulait également augmenter ma terreur. Elle reposa la verge dans le tiroir et en essuya une autre plus flexible. Que de fois pendant mon enfance, elle m'avait déjà battue avec ce jonc souple sur le dos de la main. Je te préviens, si tu cries trop fort, il y aura un supplément. Tends la main. Je tendis la main. Un claquement du jonc. Mon corps tressauta, mais je retins mon cri par un grand effort de volonté. Non par peur du supplément, mais parce que je savais avec quelle avidité elle attendait mon premier hurlement de douleur. Un autre claquement. J'étouffais encore à mon cri à grand-peine. Mais je ne pus m'empêcher de me tordre et de cacher instinctivement ma main brûlante derrière mon dos. La main devant. Le coup suivant m'arracha un cri encore modéré. Au suivant, le cri fut plus fort et mon corps fut secoué par la souffrance. Tiens-toi droite, tends la main. Je criais plus fort tandis qu'elle comptait les coups d'une voix métallique indifférente, comme si elle tenait une comptabilité commerciale. 10, lança la voix mauvaise. Sanglotant désespérément, je suppliais. De grâce, maman, arrête. Je ne pouvais plus jouer du piano. Un sourire impitoyable joua autour de sa bouche. C'est précisément le but de l'exercice. Pendant quelque temps, tu ne pourras pas toucher ton cher piano. Je décommanderai le Kapellmeister Knall sous prétexte que tu es malade. La torture continua. Me tordre, hurler, crier, grâce, rien ne servait. Lorsqu'elle me détacha après le 20e coup, ma peau n'était plus qu'une surface de chair frémissante, brunie par des hématomes, enflée, informe. Du sang coulait des poings où la peau avait éclaté. Une souffrance cuisante montait dans mon bras. Secouée de sanglots, je restais là et j'attendais ses ordres. Elle remplit d'eau sa cuvette en porcelaine de Nifenbourg et y versa du phénol. « Ta main devra rester dans l'eau désinfectante jusqu'à ce que le saignement cesse, » commanda-t-elle. Gémissante, je plongeai ma main dans la cuvette. « Ensuite, je te mettrai un pansement. Pour papa, pour la femme de chambre et pour l'école, tu as glissé sur le parquet et tu t'es luxé le poignet. Si tu t'écartes le moins du monde de cette version, je te battrai au fouet. Tu peux te dispenser de piailler. » C'est assez édifiant. Cette partie de sa vie sera également relatée dans son autobiographie « La poursuite du vent », publiée chez Olivier Orban en 1976, un an avant son décès. Le professeur de piano et maître de chapelle qu'on avait prié de se montrer sévère et de punir chaque faute d'un coup de règle, eut pourtant pitié de son élève. Il comprit vite la passion de l'enfant lorsqu'il la vit pleurer en l'écoutant jouer la passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Douée pour le chant, elle l'étudiera un peu plus tard avec Ella Geimer à l'Opéra de Munich. Plus tard encore, elle fera de la musique avec Yvan Goll, qui était un admirable interprète de Chopin. L'enfant rouquine, violente et torturée, était déjà poète. Elle pensait que les anges qu'elle appelait au secours dans des vers naïfs lui viendraient en aide. Mais seul son frère était bon pour elle et faisait tout ce qu'elle pouvait pour la protéger contre l'hystérie maternelle. Un jour que la misérable, dans sa folie, désarticule le doigt de la fillette, il lèvera la main sur sa mère. Le conseil de famille décide aussitôt de l'expédier dans une maison de correction. Il s'enfuit et se suicide. À l'âge de 15 ans, Clara change de lycée et continue des études dans une institution que dirigeait alors une éducatrice exceptionnelle, Julie Kerschensteiner, nièce du célèbre pédagogue et réformateur d'école Georges Kerschensteiner. Après la mort de cette femme en 1950, on a comparé cette femme extraordinaire à Bettina von Arnim, à Clara Schumann. Son attitude rebelle sous Hitler lui valut d'être chassée en 1943, ainsi que son mari, de son institution. La mort de son fils emprisonné et tué en fuyant la Gestapo fut le prix de son courage. Énergique et belle, elle prit Clara sous sa protection et lui inculqua les premiers principes de morale en même temps qu'elle encourageait ses dons littéraires. Elle lui révéla l'histoire de l'art, les Upanishads, les romantiques allemands, surtout Novalis et Hölderlin, ainsi que les écrivains qui allaient avoir sur elle l'influence la plus profonde, Tchekhov,
Dostoïevski, Gogol, elle l'initia également à Wagner. Dans Les années déchirées, la suite du ciel volé, Clara y relate la folle passion qu'elle éprouva pour sa directrice. Le premier travail littéraire qu'elle fit à 15 ans à l'école, qui lui valut d'abord un blâme, puis des éloges, fut une conférence sur Nala et Damayanti, l'épopée hindoue que l'orientaliste Frédéric Rückert avait tirée en allemand du Mahabharata et dont on sait que Gustav Mahler avait mis en musique les Kindertotlieder. Cette conférence n'était nullement une révérence envers Rückert, considéré alors comme un des plus grands poètes, mais un éreintement ironique, irrespectueux, de ses vers rigides et poussiéreux, une attaque virulente contre un des maîtres incontestés du classicisme allemand. Je vais vous lire un extrait à propos de Julie Karschensmeller que Claire écrivit. Hymne à la nuit. J'attendais toujours la nuit comme une délivrance, car aucune journée ne s'écoulait sans persécution de la part de maman, corporelles ou morales. La nuit, trois portes me séparaient d'elle et de l'atmosphère maléfique qui l'entourait. Ne plus sentir sur moi ses regards caustiques, ne plus entendre le son métallique de sa voix qui me faisait trembler jusque dans les fibres de mon être, ne plus craindre sa main cruelle toujours prête à frapper, être étendue dans l'obscurité et me réciter à mi-voix les hymnes à la nuit de Novalis que nous avions étudiés à l'institution Kerschensteiner au cours de littérature fait par la directrice. Nous te sommes donc agréables à toi aussi, sombre nuit. Sous ton manteau, que portes-tu, dont la puissance invisible touche mon âme? Un baume précieux coule de tes mains, de ta gerbe de pavot. Louange à la reine du monde, à la haute annonciatrice des saints univers. Chaque fois que j'arrivais à cette phrase, je la voyais, la belle directrice. La reine qui régissait notre royaume encore enfantin. J'étais si amoureuse d'elle que je ne pouvais m'endormir sans me réciter du Novalis avec l'intonation qu'elle avait eue. Au cours de ses leçons, ses traits expressifs se transformaient sans arrêt. Elle était sans cesse une autre, encore plus belle qu'à la minute précédente. Et la nuit, comme dans un film, tous ses visages différents défilaient comme sur un écran derrière mon front. J'avais reçu le coup de foudre, l'éclair. Tout de suite, la première fois que je m'étais trouvée en sa présence, moi que nul n'aimait à la maison, les sentiments que je ne pouvais avouer à personne s'étaient accumulés en moi et explosés. À cette époque, Claire fit sa première expérience amoureuse avec un nazi en herbe. Pendant les vacances dans les Alpes bavaroises, un garçon de 16 ans, au nom significatif, Rudolf von Wigelius, tomba amoureux d'elle et lui envoya des lettres enflammées. Mais à la rentrée des classes, ses camarades le mettant en garde contre une fille au sang non purement arien, ce fils de petit obros autrichien, antisémite et raciste, comme il se doit pour un compatriote du futur Führer, écrivit à Claire: je suis Dutch national et ne peux pas faillir à la fidélité envers ma patrie. Adieu. Ses études terminées à 19 ans, Claire, en visitant une galerie d'art Schack à Munich, fut présentée par un ami à un jeune étudiant suisse, Henri Studer. Coup de foudre mutuel. Un an après, Claire se trouve enceinte. Un enfant conçu hors mariage équivalait à cette époque à une tragédie. Contrainte familiale. Claque de la mère pour sa fille qu'elle traite de catin, chantage du père Studer. Le contrat de mariage fut donc signé très rapidement. Le jeune couple partit pour Leipzig. Studer pouvait écrire sa thèse, Claire poursuivre les cours du philosophe Wilhelm Wundt. Claire s'aperçut rapidement que son mari préférait les cabarets à l'université, les bordels à son foyer. Une petite fille naquit qu'il fallut cacher pour ménager l'hypocrisie bourgeoise, puisque l'enfant avait 5 mois d'avance sur le calendrier. La dot avait fondu rapidement. Au moindre mot, Claire était brutalisée, humiliée, battue et délaissée. Elle s'éprit du célèbre éditeur Kurt Wolf, qui le premier publia Kafka, Gottfried Benn, Ivan Goll et Franz Werfel. les Studer et les Wolf devinrent amis. Face à la déchéance de son époux, Claire prit la fuite. Wolf l'emmena dans une maison de santé où elle passa 2 mois. Séparation, divorce. Elle perdit sa fille, confiée aux soins d'une gouvernante chez son grand-père à Zurich. Pour ne pas être trop loin d'elle, Claire partit pour la Suisse. En 1917, elle poursuivit ses études à l'Université de Genève et la Neue Zürcher Zeitung fit paraître un article pacifiste de Claire. Elle l'envoya à Romain Rolland, qui se trouvait à Sierre dans le Valais. Il lui répondit de porter l'article à Henri Guilbeault, qui éditait la revue Demain à Genève. Guilbeault accueillit Claire et lui offrit un numéro de la revue contenant un long poème d'Ivan Gogh, Requiem pour les morts de l'Europe. Bouleversée par ce requiem, Claire adressa à l'auteur qui vivait à Lausanne une lettre enthousiaste. Il lui répondit qu'il lui rendrait visite à Genève très prochainement. Elle s'attendait à voir un monsieur d'un certain âge, barbu et courbé, et vit bondir dans sa chambre un adolescent qui avait les yeux brûlants du moine dans le célèbre tableau de Giorgione, Le Concert. Dès cette première rencontre, le jeune poète s'écria «
Vous êtes mon destin !»
Claire répondit moqueuse « Mais vous n'êtes pas le mien !» À vrai dire, elle commençait des études universitaires à Lausanne, où elle s'était rendue, et fiancée par esprit de bravade avec le meilleur ami d'Ivan, un étudiant en médecine, devenu plus tard un psychanalyste à New York. Mais obligé de partir à l'étranger, il confia sa fiancée à Ivan. Mal lui en prit. Le 17 octobre, Claire et Ivan contractèrent un mariage sans formalité légale, se faisant un serment de fidélité que, malgré de nombreux écarts de part et d'autre, ils devaient maintenir jusqu'à la mort d'Ivan. Ils s'installèrent ensuite à Zurich, où ils vécurent dans l'intimité de James Joyce, d'Henri Kahnweiler, de Franz Werfel, de Stefan Zweig, Jean Harp, Jablinski, qui fit alors un portrait de Claire. Invitée par Pierre Jean Jouve dans sa maison du Valais, Claire avait traduit en 1916 « Vous êtes des hommes » paru la même année. Elle y passe plusieurs jours en compagnie de Romain Rolland. En 1918, les Gaules quittèrent Zurich pour se fixer à Ascona. C'est dans cette ville qu'Ivan exigea de Claire qu'elle l'épousa légalement. Mais redoutant une nouvelle désillusion, elle s'enfuit à Munich afin d'y rencontrer Rainer Maria Rilke, dont elle admirait l'œuvre et qui eut pour elle une véritable passion. Leur liaison dura quelques semaines, leur correspondance datée de 1918 atteste d'échanges fougueux, en particulier de la part de Rilke. Elle se poursuivra jusqu'en 1923 en se transformant en une véritable amitié. Je vais vous lire quelques extraits de lettres que Rilke adressait à Claire. Iliane, bien que je ne puisse devant moi poser une page blanche sans que ton reflet de feu y tombe, ai-je vraiment allumé en toi un tel brasier, un tel incendie du cœur? Bénis en ton cœur cette année pour moi, Liliane, et quand ce sera fait, souhaite-moi le calme, l'avenir et la nature, c'est toi. Lorsque le soir, dans l'obscurité, j'étends les bras et ouvre les paumes, j'éprouve à leur surface la sensation de ton châle espagnol. Et de plus en plus, je suis persuadée que ce châle n'est rien autre qu'un tissu ensorcelé qui a conservé mélancoliquement et tendrement un frôlement de ton corps avec la nuit. Mis à part ces deux lettres, ces petits extraits de lettres d'amour passionnées, Rilke, au moment du décès de la mort du père de Claire, adressa une lettre qui... je crois sur laquelle on peut méditer et qui l'a éveillé à la spiritualité. Et je trouve que cette lettre est vraiment très très belle. Pardon, je coupe le micro. Voici ce qu'il lui écrit. Liliane, avant de t'envoyer ceci, j'ai déchiré une lettre écrite pour toi. Avant hier soir, car je ne voudrais pas te dire des généralités au moment où tu me demandes assistance. Et pourtant, sache toi-même comment trouver l'exceptionnel qui ne serait valable que pour toi, puisque je ne connais que sommairement cette sorte d'affliction qui t'accable et te met à dure épreuve. Vis-tu, il me semble qu'en ce jour, où pour la première fois il est exigé de toi d'éprouver la mort, à travers la mort de l'être infiniment proche, toute la mort, en quelque sorte bien davantage que la tienne, l'éphémère. Le moment est venu où tu puisses être le mieux capable de percevoir le pur secret qui, crois-moi, n'est pas celui de la mort, mais celui de la vie. Il s'agit maintenant, avec la générosité inouïe et inépuisable de la douleur, d'incorporer à sa vie la mort, toute la mort, devenue palpable et presque apparente, à travers un être des plus chers, une mort qu'on ne peut plus ni décliner, ni renier. Attire à toi cette épouvante. Feins aussi longtemps que tu en es capable une intimité avec elle. Ne l'effarouche pas en t'effrayant devant elle comme font les autres. Apprivoise-la. Ou si ta capacité de la surmonter est trop faible, tiens-toi tranquille et silencieuse afin qu'elle puisse t'approcher. Cette présence toujours écartée de la mort et qu'elle t'étreigne. Car voici ce qu'est devenue pour nous la mort, elle qui, toujours pourchassée, ne pouvait plus se faire connaître. Si la mort, au moment où elle nous blesse et ébranle, trouvait le plus humble parmi nous confiant et dénué d'épouvante, avec quels aveux se livrerait-elle à lui, enfin ? Il suffirait d'un simple moment d'élan, d'une brève suppression du préjugé, et la voici déjà prête à des confidences infinies qui dompteraient notre appréhension et qui nous forcerait de l'accueillir dans une tremblante attente. Patience, Liliane, rien qu'un peu de patience. Admise à l'essentiel, initiée, tu célèbres la première fête du détachement de toi-même. Dans la mesure où tu perdis une protection et tu en es frustrée, tu deviens toi-même plus protégeante, donneuse de protection. L'isolement qui t'assaillit te rend capable de mettre en équilibre la solitude des autres. En ce qui concerne ton propre accablement, tu t'apercevras bientôt qu'elle a donné à ta vie une nouvelle mesure, une nouvelle unité de mesure dans l'effort et dans l'endurance. Je conseille seulement, Liliane, je ne tente pas autre chose que d'être près de toi dans ces simples paroles. Un jour plus tard, tu me diras si elles ont pu te diriger, car nul n'atteint à l'assistance et à la consolation, sauf par la grâce. Cette lettre fut publiée dans l'ouvrage que Claire consacra à Rainer Maria Rilke, « Rilke et les femmes », paru aux éditions Falaise en 1955. Confronté à cette liaison, Ivan, fou de jalousie, demanda à Claire de choisir entre lui et Rilke. Mais le cœur de Claire demeurait partagé entre Ivan et le poète allemand, qu'après une éclipse d'un an, elle allait revoir en Suisse en 1920. Claire allait concevoir un enfant de Rilke, un enfant qui ne devrait pas vivre, mais qui allait survivre dans le ressentiment de Gaulle qu'elle consentit finalement à rejoindre. En août 1919, les Gaulles s'installèrent à Paris. C'est dans un hôtel borgne de Montmartre que Claire écrivit son journal d'un cheval que son ami Chagall devait bientôt illustrer. Un dimanche sur deux, les Gaulles étaient les invités de Chagall, qui avait loué un petit pavillon à Boulogne. C'est là qu'ils firent leurs nombreux portraits. Claire, tout comme Ivan, poursuivait ses expériences personnelles à la recherche de l'inouï, dans un esprit d'aventure. À ses recherches techniques, Claire et Ivan mêlaient les trouvailles du cœur. Claire écrivit des poèmes auxquels elle donna pour titre « Tendres impôts à la France ». Claire et Ivan, tour à tour écrivains de langue française et de langue allemande, connurent beaucoup de romanciers et de poètes des deux parties du monde. Des Italiens, Italo Svevo, Moravia, des Anglo-Saxons, Graham Greene et Faulkner, des Espagnols, Gomez de la Serna, Unanue et Alberti, et des Russes, Mayakovsky et Essénine. Claire avait fait paraître en allemand dès 1918, c'est-à-dire Mitwelt, qui s'intitule Autrui. Je vais vous le lire, et il est toujours d'actualité, il a une résonance très forte aussi en ce moment. À mon enfant. Oh, pourras-tu me pardonner la terre, mon enfant, cette terre, et mon impuissance à la mort de ton premier amour, quand se brisa le premier être humain qui fut tien, ta poupée, car avec cet innocent simulacre, un être humain, mourait pour toi. Et pour la première fois mourait ton âme que tu lui avais insufflée. Ah, que les larmes me percèrent le cœur et ton regard de reproche. Ce premier doute encore hésitant en la bonté des choses et des êtres, ton doute en l'amour, en la durée du fragile bonheur. Oh, pourras-tu me pardonner la terre, mon enfant, cette terre? Quand tu vis hier cet homme mutilé par la guerre, avec sa médaille mensongère et son torse sans bras, à nouveau ton cœur innocent mourut en pressentant le monde. L'image d'une humanité bonne et belle fut réduite en miettes. Mais jamais l'ange en toi n'aurait deviné pourquoi, car je me tue. Te cacher la guerre entre les peuples frères. Dans les yeux purs tremblaient les questions et les larmes. Alors tu eus ce geste touchant, me donner ta petite main. Geste de foi en moi qui évitait de te répondre. Répondre, c'est par ma faute aussi, par mon silence qu'il a perdu ses membres. Et me pardonneras-tu la terre, mon enfant, cette terre, quand tu seras un jour devant le corps brisé de l'homme aimé, brisé par cette guerre qui ne finit jamais ici-bas, lorsque tu reconnaîtras que la femme n'a qu'un droit, n'a qu'une possession en ce triste monde, la douleur. N'élèveras-tu pas plainte sur plainte? Mère, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour éviter la misère, pour éviter le mal? Mère, si vous avez toléré qu'on bâtisse cette muraille de Chine, et derrière ce mur hostile, vous nous envoyez par le monde, non pour nous promener dans les prés et les bois accueillants, mais sur une mer rouge de sang dans les déchets semés d'ossements. Ô enfant, me pardonneras-tu alors le ciel des avions et cette terre? Où ai-je pris le courage et le droit de t'enfanter? Un jour, je le sais, tu me maudiras, mon enfant. En 1920, Claire publia aux éditions du Rhin ses poèmes, films lyriques, et en 1922, son anthologie de la poésie américaine, Le Nouveau Monde. D'autre part, dès 1922, Yvan et Claire avaient commencé à composer leurs poèmes d'amour alternés, véritable duo poétique. Tour à tour parurent ensuite les poèmes d'amour, illustrés par Chagall, les poèmes de la jalousie et les poèmes de la vie et la mort. Nous allons, puisque nous avons la chance d'avoir des lecteurs qui m'accompagnent, avoir quatre poèmes et échanger entre Claire et Yvan, s'il vous plaît.
De Claire à Yvan. Voici 10 ans que tu m'aimes, 10 ans qui furent 10 minutes, et je te vois toujours pour la première fois. Les poches pleines de roses, des larmes futures derrière tes lunettes, diamants sous vitrine, dans ta poitrine une alouette, et sous les gants timides, toutes les caresses de l'avenir. Voici 10 ans que tu m'aimes, que sur ma montre bracelet, le temps s'arrêta pour toujours.
Je voudrais être ce boulot que tu chéris. J'aurais 100 bras forts pour te protéger, 100 000 mains vertes et douces pour te caresser. J'aurais les meilleurs oiseaux du monde pour te réveiller à l'aube et te consoler le soir. Je te verserais des pétales de soleil aux heures de l'été. La nuit, j'envelopperais dans mon ombre tes rêves peureux. Je voudrais être ce bouleau au pied duquel ils creuseront ta tombe et qui, de ses racines, t'enlacera encore.
Toutes les eaux douces descendent vers toi. Les nuages tombent à genoux. Les rivières te cherchent à travers le monde entier. Les jets d'eau, pour mieux te voir, se hissent sur la pointe des pieds. Les fontaines récitent des chansons dans toutes les langues. Les étangs inventent de nouveaux poissons pour te nourrir. Les lacs se déplacent pour irriguer tes rêves. Une source thermale jaillit de mon cœur. Tu y feras une saison.
Tu es insaisissable, comme le ruisseau dans l'étouffe de menthe. Souvent tu frissonnes à mon image quand je me penche sur toi. Les étoiles s'allument quand tu me regardes. Sûrement tu m'aimes et tu descendras vers la mort une de mes chansons aux lèvres. Mais tu me fuis, tu fuis insaisissable, ô mon amour, ô ma vie.
Dès 1225, Clergueul s'attaque à la prose. Son œuvre romanesque sera constituée de 32 romans et nouvelles. L'un de ces romans se distinguera avec Le Nègre Jupiter enlève Europe, qui paraîtra en 1928 aux éditions Cré à Paris. Le premier livre qui traitait psychologiquement des rapports entre noirs et blancs, roman magistral qui fait songer au roman de La magie noire de Paul Morand, dont Ilia Ehrenbourg dira « Ce roman est, à mon avis, une admirable expression de l'inquiétude européenne. » Parmi ces nombreuses nouvelles, nous en citerons quelques-unes. Une perle, parue aux éditions Cré en 1929, sur la sexualité interraciale. La vraie chinoise, parue aux éditions des œuvres libres en 1958, sur les quartiers chinois de San Francisco et de New York. Le dîner de 10 000 francs, paru aux éditions aux œuvres libres en 1958, sur une dérisoire clocharde, Sainte Françoise de Ménilmontant. Apollon sans bras, paru aux éditions des œuvres libres en 1956, qui est l'histoire d'un monstre sans bras qui joue du xylophone dans une baraque foraine. Plusieurs romans s'ajouteront au Nègre Jupiter enlève Europe, Le tombeau des amants inconnus, édité à la Maison française à New York en 1940. Qui résume, loin du réalisme de la fin de l'après-guerre, on y retrouve les grandes envolées romantiques naturelles à l'auteur. Stefan Zweig dira « Seule une femme pouvait réaliser le miracle de spiritualiser tendrement la cruauté de cette époque. » Et Maeterlinck dira « Une œuvre admirable, ce livre si magistralement écrit, il est force et amour. » Le tombeau des amants inconnus plut aux étrangers et laissa les Français à peu près indifférents. Il faut revenir aux évidentes influences germaniques chez cette femme née à Nuremberg, qui avait surtout vécu à Munich et qui rêvait, selon Hölderlin, l'œuvre tombée où les relations entre le génie allemand et le génie français étaient les plus distendues. Vint ensuite la nouvelle Arsenic, publiée aux éditions Variété à Montréal en 1945, qui relate les images d'une médiocre réalité provinciale française décrite avec une implacable myopie. En 1926, Claire eut le chagrin d'apprendre la mort de Rilke. C'était le poète qui, le premier, lui avait désigné des chemins obscurs afin de rendre visible le spirituel. Afin d'aider financièrement Yvan, Claire, comme l'avait fait jadis Mallarmé, écrivit pour le plus grand journal allemand, le Berliner Tageblatt, des articles de mode que reproduisaient les journaux de Vienne, de Zurich et de Prague. En 1930, Ruth Condé, un habitué, venait dîner chez les Gaules, au Diverti. Claire avait éveillé en lui un amour passionné. Il composa pour elle maints poèmes. Dany, la maison de Dany, la mort de Cléopâtre, Sémiramis, qui parurent dans Race des hommes, mais dont plusieurs versions n'ont jamais été publiées. Claire conserva pieusement un gros paquet de lettres enflammées d'Audiberti. Voici deux extraits de lettres d'Audiberti à Claire datant de 1935. Dany, aux cheveux roux, que d'aucuns nomment Claire, depuis que tes yeux verts comme l'éternité ouvrirent sur le monde une dure lumière, j'écoute en moi le fil crissant et doux de ta courbe trempée aux sources de Vénus. D'autres douceurs sur moi que celles de mes larmes, je ne connus jamais dans ma lutte de gloire. Tu les as fait couler, ces larmes, ô Dany. Le monde entier brilla dans cette goutte, tout le drame de l'homme en proie à la beauté. Et cette triste ondée fut quand même un baptême, une onction divine, où nous baignâmes ensemble. Cher et très cher, Dans la petite poésie que je vous ai envoyée de Chambéry, il faut que vous compreniez bien que le roi des archanges que les arbres regardent passer, c'est vous. Je tremble que vous ne l'ayez pas compris. Ainsi, ô mince roi d'or. Il est à noter qu'en 1931, Yvan Goll travaille un projet de film à Berlin. Il y rencontre la poétesse Paola Ludwig. Débute alors une liaison de 8 années qui est à l'origine d'une grave déchirure dans le couple. De son côté, Claire noue plusieurs liaisons avec des hommes en vue, dont Jacques Audiberti. Jusqu'en 1939, se succéderont crises de jalousie et réconciliation. C'est ainsi que le 22 juillet 1938, Yvan fait ses adieux pour toujours à Claire. Il lui déclara qu'il allait partir définitivement avec Paola Ludwig. En réalité, il est allé rejoindre une jeune fille pour laquelle il louait depuis plusieurs mois un appartement dans l'île Saint-Louis. Le surlendemain, lorsqu'il vint prendre en cachette son courrier, il apprit par la concierge qu'elle avait été alertée le veille au soir par une crise de nerfs de Claire. En se précipitant à l'étage, il trouva Claire dans le coma. Yvan, désespéré, laissa ce mot près d'elle à l'hôpital Cochin. « Chère petite Zouzou, enfin tu te réveilles à la vie, dans le milieu doré de l'été. Je voudrais bien rester à ton chevet, mais on me le défend. J'aurais préféré te confier à une clinique privée, mais je n'avais pas le choix. Affolée, j'appelais police secours et l'ambulance t'amena aussitôt à l'hôpital Cochin. Quelques heures de patience et je tiendrai tes mains. De nouveau, ton Yvan. » Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Yvan et Claire partirent pour l'Amérique. À la sûreté parisienne qui avait facilité leur fuite, on leur avait dit « Vous allez lutter avec vos plumes pour la France ». Ce qu'ils firent. Yvan était décidément Jean sans terre, ou mieux Jean de toute la terre, celui qui traverse l'Atlantique, avec Claire sans lune. À New York, Yvan travailla avec André Breton à la section française du département du ministère de la guerre, qu'avait formé Pierre Lazareff, Claire collabora aux journaux français de New York, fondés par les fervents du général de Gaulle. Claire publia La Maison française, éditeur des exilés, Maritain, Jules Romain, Maïté Erlinck, André Mauroy, Julien Gril et bien d'autres, ainsi que son roman Le tombeau des amants inconnus, une virulente mise en accusation des nazis. En Amérique, Claire et Yvan furent les interprètes naturels de cette nouvelle Europe qu'ils voyaient naître. Invité d'honneur dans le New Hampshire, l'une des nombreuses colonies d'artistes que les États-Unis ont généreusement créées pour offrir un long séjour aux peintres, aux compositeurs et écrivains, Claire et Yvan unissent leurs voix en écrivant « Nouvelles petites fleurs » de Saint-François d'Assise que Dali illustra de 3 dessins. Depuis leur exil américain, Claire et Yvan revivaient un nouvel amour, radieux. Yvan, depuis 1945, sait qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il lui reste peu de temps. Mais le mal du pays rongeait les Gaules. Il savait la pénurie des vivres à Paris et combien Yvan, atteint de leucémie, en serait affecté s'il rentrait en France. Pourtant, il insista, « Rentrons, je voudrais mourir en France. » Le 7 juin 1947, le couple Gaulle débarque du Mauritania à Cherbourg et arrive à Paris à la gare Montparnasse. Claire et Yvan purent poursuivre ensemble quelque temps encore leur œuvre poétique. Ce furent 10 000 aubes, Duo d'amour, L'Anti-Rose, 3 recueils d'amour illustrés par Chagall qui devaient paraître après la mort d'Yvan. 10 000 aubes. Il faut expliquer ce titre. Yvan Goll glissa un poème d'une saisissante beauté sous la porte de Claire le jour du 2e anniversaire de leur rencontre. 30 années font 10 000 aubes. Je laisse les lecteurs.
Dix mille aubes, mon ange, 10 000 aubes. 10 000 fois l'œil du soleil est venu rouvrir nos paupières. 10 000 aubes pour cette unique nuit de notre amour. Ta tête sculptée dans mes bras, la roseraie de tes cheveux allumée de 10 000 aubes. Ah, combien de scintillements! Et les 10 000 voix des vagues, combien de lunes sont venues, tantôt délurées, tantôt tristes, nous couvrir de l'extase des lèvres. Et des vieillards ont donné leurs yeux, et des enfants ont mangé notre cœur dans les 10 000 songes d'un amour. 10 000 aubes, mon ange, 10 000 aubes, 10 000 œufs pleins d'oiseaux et de chansons, 10 000 jaunes de soleil valent bien aujourd'hui l'unique mort aux 100 000 astras.
Vous pouvez dire toutes les eaux douces.
Je continue là.
Oui, toutes les eaux. Alors.
Si tu existes, ô Dieu, aide-le à trouver les multiples bras de ces déesses dont chaque homme rêve. Donne-lui 1000 étreintes. Si tu existes, ô Dieu, donne-moi la force d'accueillir son sourire adultère avec le sourire du pardon.
Bientôt, hélas, le ton va changer. Il ne s'agit plus de souhaiter et de pardonner à un être aimé une vie exubérante lorsque la mort commence à s'insinuer dans le sang de son corps. J'ai honte de mes joues fiévreuses en voyant les tiennes si blanches. Ah, pourquoi teindre tes lèvres exsangues avec le minium des miennes, pouvoir donner le liquide de mes veines aux tiennes et mourir à ta place, mon amour. Claire concentra son chagrin dans une suite de poèmes, les larmes pétrifiées, qui lui valurent l'attention et bientôt l'admiration des contemporains, qui comprirent qu'ils assistaient à une seconde naissance poétique. L'illustre philosophe Gaston Bachelard, décrypteur des poètes, salue en ces termes la douleur du poète. À chaque poème, tout le long des larmes pétrifiées, on sent une âme qui s'agrandit dans l'approfondissement de sa peine. Et parfois, on sent une telle communion dans la douleur qu'on reconnaît la peine universelle des hommes. Ces poèmes souffrances sont inoubliables.
Scapulaire ?
Oui.
Donc il est trois.
Oui, oui.
Scapulaire, j'ai enfermé tes cheveux en fleurs dans l'herbier de mes rêves. Quand le vent répète tes vers, je sens ton souffle. Je ramasse les ombres des saules qui nous ont vus ensemble. J'incise dans les arbres futurs ton cœur lumineux. Les nuages et les astres copient ton profil d'albâtre. Un scapulaire me protège, contenant ton dernier baiser.
Je suis née dans ton cœur un dimanche à 20 ans. C'est toi qui m'as prise à marcher le long des nuages. Tu enseignes à mes yeux les larmes de l'euphorie. Tu m'ordonnas d'ouvrir la porte à l'ange aux ailes souillées et de demander pardon à l'assassin de minuit. Tu m'as pris l'extase devant le galet chargé de durée, devant l'herbe du terrain vague, de chanter à deux voix l'air amiantin d'amour qui résiste au feu. Mais la mort l'a brûlé quand même, et je succombe sous le poids du chagrin de plomb. Oui, tu me mis au monde, aide-moi aussi à émigrer au ciel.
Pour me guérir, le sorcier a peint ton image sur le désert. Du sable d'or pour tes yeux, du sable rouge pour ta bouche, du sable bleu pour tes cheveux, du sable blanc pour mes larmes. Il a peint tout le jour, tu croissais comme une déesse sur l'immense calva jaune. Le soir, le vent les dispersa, ton ombre multicolore, le vent dispersa ton ombre multicolore. Selon la loi, il ne reste rien, rien que la réplique de mes larmes, le sable argenté.
Malgré son désespoir de lui faire vivre, Claire se consacra à faire connaître l'œuvre de son mari. Elle va devenir en effet la parfaite secrétaire d'un mort et fera publier les textes d'Yvan Goll dans de multiples revues, que ce soit en français, en allemand, bengali, espagnol, grec, hébreu, japonais, mandarin, tchèque et ukrainien, ainsi que des livres et des éditions de luxe. Elle part en tournée de conférences dans différentes universités des États-Unis dès 1952. De son voyage, elle rapporte des chansons indiennes, dont on vient d'entendre un poème, venu du fond des âges, Elle crée en 1954 en France et aux États-Unis l'Association des Amis d'Ivan Goll. Elle voyage de par le monde pour les nombreuses éditions étrangères d'Ivan. Elle reçut tour à tour en 1952 le prix de la meilleure nouvelle offert par la radiodiffusion allemande et le prix Catherine Mansfield à Paris en 1965. Comment Claire a-t-elle réussi ce travail titanesque et seulement 8 années pour tout en poursuivant son œuvre? Cette lettre écrite à Florent Feck nous l'explique en partie.
Allô, les amis.
Mon cher Florent, ta lettre m'avait apporté une très grande joie. Mais n'as-tu pas vu que je ne suis qu'une locumène? 3 ans sans une journée de vacances, 7 jours de travail par semaine, car je ne pouvais pas me permettre un seul week-end. Il fallait taper 10 heures par jour, puisque j'avais promis à Ivan de vivre pour son œuvre. J'ai tenu ma promesse. Son œuvre vit, mais moi je me meurs. Il me reste peu de force. Ce travail de secrétaire au service d'un mort m'ayant épuisé. Copier, recopier les documents et les manuscrits, répondre aux demandes des 5 continents, et tout cela sans aide, car mes moyens ne me permettent pas de prendre une secrétaire et le tarif des bureaux de copie est trop élevé. Comment veux-tu que je réponde aux lettres? Des paquets de lettres importantes, demandes de traduction, d'anthologie, traînent partout sur les tables, la cheminée, le bureau, le tapis. Tâche donc de me comprendre. Un silence imposé par des circonstances extérieures et non par une négligence du cœur. Celui-ci t'appartient puisque tu étais l'ami d'Ivan. Mes poèmes parus dans Action ne m'intéressent pas. Seuls ceux d'Ivan et surtout l'article qu'il a écrit sur Rilke parce qu'il était à la base d'un différend entre les deux poètes. J'ai reçu hier la traduction de ses chansons malaises en espagnol parues à Madrid en un très beau volume. Dans la préface, on compare ses poèmes à ceux de Sappho, au Cantique des Cantiques et à Saint-Jean de la Croix. C'est une douloureuse satisfaction pour moi. La semaine dernière est sorti notre écrit en collaboration Nouvelle Petite Fleur de Saint-François d'Assise avec 3 dessins de Dali, et Fernand Mourlot va éditer Neyla, les poèmes avec 4 dits aux couleurs de Miro. L'œuvre complète d'Ivan qui devait sortir en Allemagne l'année dernière sortira seulement en 1959 parce que je n'ai pu faire texter les traductions nécessaires. En 1958, après un voyage au Mexique, elle écrit sous le titre « Le cœur tatoué des chants de peaux rouges imaginaires ». À travers ses élégies, ses cris, ce cantique des cantiques prêté aux peaux rouges, on retrouve les accents personnels de sa souffrance. Mais retenons ce rite de guérison d'un sorcier imaginaire.
Ce que nous avons entendu tout à l'heure, un peu précédemment.
En 1966, un événement imprévisible et merveilleux pour Claire vient surgir dans sa vie. La découverte du plaisir sexuel avec un jeune poète de 20 ans. C'est avec ce jeune poète dont elle était prise et pour lequel elle a écrit à nouveau de jolis mots poèmes d'amour qu'elle va désormais travailler pour publier en français et en allemand un choix des œuvres d'Ivan, en particulier les tomes 1 et 2 des œuvres parues donc sous sa direction et de François-Xavier Jaujard, qui à l'époque était ce jeune amant, publié aux éditions Émile Paul en 1968, ainsi que le Jean Santerre, illustré par Chagall, Matisse, Dali et Zadkine, par les deux mêmes personnes en 1970. Ce fructueux travail d'édition se poursuivra pendant 10 années jusqu'en 1977. Mais depuis 1975, Claire Goll souffre d'une maladie incurable. Avec courage, elle affronte l'hôpital et la chimiothérapie. En 1976, elle prenait encore plusieurs fois par semaine le bus pour aller se soigner au bain d'Enghien, près de Paris. À l'automne 1976, elle devient dépendante et en partie grabataire. Mais soignée de façon émouvante par une amie, elle s'impose encore comme une fois une tâche importante qui créa de vifs remous et des réactions mitigées dans le monde littéraire, en particulier lors de l'émission télévisée de Bernard Pivot, en publiant La poursuite du vent aux éditions Orban en 1976. Voici un court extrait de La poursuite du vent. J'ai aimé quelques hommes et bien plus mon aimé, mais ce n'est qu'à 76 ans que j'ai connu mon premier orgasme. Malgré ses aventures ou ses liaisons, j'ai dû attendre qu'à cet âge, un garçon de 20 ans me fasse découvrir l'amour. Immédiatement après avoir fini la version française de La poursuite d'Ivan, elle se mit à traduire le livre en allemand. Le 21 janvier 1977, 4 mois avant sa mort, elle écrivait encore à l'éditeur suisse « Moi seule puis faire de La poursuite du vent un chef-d'œuvre, car je cisèle chaque mot. » L'éditeur lui avait d'autres intentions. Le livre fut seulement publié en 1978 sous le titre décrété par lui « Je ne pardonne à personne », une chronique littéraire scandaleuse de notre temps. Ce titre, jamais Claire n'en a eu connaissance, heureusement pour elle, j'ajoute. Mi-mai 1977, elle fut victime d'un accident domestique. Dans ses papiers, Barbara Cloher et ceux, dont nous reparlerons un peu plus tard, trouva une petite lettre qui, contrairement à ses innombrables missives dactylographiées très serrées, était écrite au stylo et disait « C'est à peine si j'ai la force d'écrire. J'ai eu un grave accident. Mercredi, il y a 15 jours, la radio de SE est venue pour tourner un film pendant une semaine. J'ai pris un bain à 9h et à 1h, j'étais encore dans la baignoire. Je n'avais plus la force d'en sortir. Les poignées sont trop hautes, les 3 caméramans avec lesquels je pouvais communiquer par la salle de bain et l'escalier ont appelé les pompiers. Je n'exagère pas. 12 policiers, 10 médecins, les 10 médecins m'ont sauvé. Si l'équipe de télévision n'avait pas été là, je serais restée 24 heures de plus dans la baignoire avec une pneumonie. Des jours durant, je fis des pertes de connaissances. Je ne suis pas encore remise de ce choc. En effet, 20 jours plus tard, le 30 mai 1977, Claire décédait dans son appartement, entourée de livres, de tableaux et de souvenirs devenus chers, telle la petite icône que Rilke lui avait offerte après leur première nuit d'amour en novembre 1918 et la dernière rose offerte par Van Gogh. De toutes les nécrologies dont on l'inonda, ce sont les mots de sa concierge de longue date, rue Vanneau, avec les 98 marches pour accéder à son appartement du 5e étage, qui aurait eu la préférence de Madame Fleury, qui écrivit ceci le 25 juin 1977 à Barbara Cloher et ceux. Je reçois votre lettre. Oui, Madame Gol est bien décédée le lundi de la Pentecôte à 4h du matin chez elle. Nous avons, moi et Madame Mallet, une amie de Madame Gol, fait ce qu'il fallait pour qu'elle meure chez elle. Son amie a fait beaucoup pour elle, se dérangeant du Luxembourg pour la soigner. Cela faisait à peu près 6 mois qu'elle était vraiment malade. Mais jusqu'à épuisement, elle descendait tous les jours, dure avec elle-même. La maison était devenue vide depuis son départ. Il est vrai que son grand âge était là, mais elle a eu une fin heureuse. Recevez, madame, mes meilleurs sentiments. En 1962, fut écrit son poème « Notre plaque funéraire ». Donc notre médaille funéraire. Tous les minuits, je serre contre moi ta boucle bleue magique, encore chargée du haut voltage, elle me frappe d'un choc électrique. Le champ de grive par lequel tu m'appelais, je l'appris aux oisillons, et quand ils prirent leur volée, tu m'appelas du fond de toutes les laies. Dans les films que j'ai faits de toi, l'ombre d'Orphée glisse sur le mur, je me nourris des lambeaux de cette ombre, de bribes, de gélatine aux bromures. On me croit vivante selon ma démarche verticale. Et voici longtemps que je suis bronze romantique, unie à toi dans le médaillon de Chagall, sur notre lit jumeau de granit. Elle repose auprès d'Yvan, au cimetière du Père-Lachaise, face à la dernière demeure de Frédéric Chopin. Claire Gol voyait son plus cher vœu exaucé. La pierre tombale, exécutée par Jean Longuet, un petit-fils de Karl Marx, porte une effigie en relief de Marc Chagall qui représente Yvan et Claire. Peu après son décès, on a posé les scellés sur ses appartements au 4e et au 5e étage de l'immeuble au 47 rue Vanneau, et ce jusqu'à l'ouverture du testament. Missionnée par la société Schiller, Barbara Cloher et ceux ne revint en ces lieux que début mars 1978, donc pratiquement après 10 mois de fermeture. Elle était en compagnie d'Albert Ronsin, bibliothécaire de la ville de Saint-Lyé, de plusieurs avocats et des exécuteurs testamentaires. Jusqu'en novembre 1978, Albert Ronsin, son assistante et Barbara Cloher et ceux ont effectué le partage de l'ensemble des biens selon les directives du testament de 1972. Les manuscrits et les imprimés en langue allemande et anglaise, plus un choix de peintures, gravures et photographies, sont destinés au musée Schiller de Marbach, où elle devait prendre place au sein des archives littéraires allemandes que cette institution a mission de conserver et de communiquer.
Cette dévolution représentait la contrepartie de la pension viagère que depuis 1971, la République fédérale d'Allemagne versait mensuellement. L'autre partie, avec les manuscrits imprimés en langue française, la bibliothèque, la majeure partie des œuvres d'art, le mobilier et les objets personnels ayant appartenu à Yvan Hecler, revenaient à la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Le conseil municipal, par décret du 18 décembre 1978, a accepté ce legs magnifique avec six conditions qui étaient rattachées, que Claire Goll chargeait expressément et nommément d'exécuter Albert Ronsin. Bon, on ne va pas parler d'Albert Ronsin, on en parlera éventuellement plus tard, mais je vais vous dire tout simplement ce qui était de créer un fonds Yvan Goll. Donc elle engageait Albert Ronsin à créer un fonds Yvan et Claire Goll à la bibliothèque municipale et l'enrichir des travaux concernant leur vie, leur œuvre et les mouvements littéraires auxquels ils ont été mêlés de près ou de loin, de reconstituer au mieux dans le musée avec les meubles provenant de la famille d'Yvan, les œuvres d'art et les objets familiers, quelques pièces de l'appartement de la rue Vanneau, d'entretenir leur tombe au cimetière du Père Lachaise à Paris et celle du Père de Claire à Munich, de gérer les droits d'auteur sur les œuvres des deux écrivains, d'entreprendre la publication de leurs œuvres complètes et de créer une fondation dont le but serait d'enrichir le fonds Goll de la bibliothèque municipale et surtout de délivrer en leur nom un prix de poésie à un auteur francophone, prix gagé sur les revenus des capitaux qu'elle mettait à la disposition de la ville à cette fin. En conclusion, la bibliographie de Claire est très importante. Plus de 150 romans, nouvelles et articles parus dans la presse et des revues françaises et à l'étranger. Une vingtaine d'œuvres écrites avec Yvan Goll, une quinzaine de traductions en allemand, dont Francis James en 1922, Le Batuala de René Maran, L'incendie de l'opéra de Kaiser, qui en a fait une adaptation théâtrale de Boris Vian au théâtre Babylone à Paris en 1953, Les chansons malaises, Les élégies d'Ipetonga, L'herbe du songe d'Yvan Goll. Claire Goll est éditrice en français, les tomes 1 et 2, nous en avons parlé tout à l'heure des œuvres complètes. Claire Goll paraîtra dans 26 anthologies, une vingtaine d'articles et études lui sont consacrés, 7 catalogues de 1961 à 2012, essentiellement réalisés par la médiathèque, le musée et les amis de la Fondation Yvan Claire Goll de Saint-Dié. L'amour de la poésie de Claire, avec l'impulsion qu'elle a donnée pour faire rayonner leurs œuvres sur tous les continents, a porté ses fruits puisque depuis sa disparition jusqu'à nos jours, d'innombrables revues continuent à naître dans de nombreux pays, ainsi que des thèses sur leurs œuvres, des conférences, des peintures, des sculptures, de nouvelles éditions. Voici ce que dit Armand Lanoux dans son texte « La colombe poignardée aime sa tache de sang » paru dans le Claire Goll aux éditions Segers dans la collection Poète d'aujourd'hui en 1967. Il n'y a guère de commune mesure entre ce que Claire Goll écrit et l'impact sur le public. Claire a, de Rainer Maria Rilke à Yvan Goll, de Chagall à Malraux, forcé l'admiration de ses contemporains. Pourtant, son œuvre reste occultée. Le public n'y est jamais entré à flot. Pourquoi ? Sans doute y avait-il en elle cette complaisance à l'aile blessée, cet amer plaisir du demi-échec, cette dégustation solitaire du thé fort de la désillusion ? Ce syndrome d'échec, en somme, qu'elle avoue sans peine, ce masochisme plus moral que physique, qui expliquerait cette démarche voletante, elle l'a avoué, la colombe poignardée aime sa tache de sang. La vitre entre Claire et le public, où l'oiseau Claire s'est 10 fois meurtri, s'appelle poésie. Claire ne comprend pas qu'elle ne puisse pas passer, tandis que le spectateur ne comprend pas qu'elle veuille passer au travers de la vitre. La poésie est la continuité de cet être mutilé et ailé, de cette joueuse de violon aux cheveux flambants qui chante au-dessus des hommes que sa musique inquiète. Mais qui peut réellement conclure cette présentation, si ce n'est Claire Goll, elle-même, avec ce passage que j'ai retenu de sa biographie, extrait de La poursuite du vent, et qui, selon moi, la révèle si bien. Je ne crains ni les ans, ni l'approche de la mort. Mais la résignation me terrorise. Jamais je ne voudrais aborder aux rives de la sagesse et de l'apaisement. À 85 ans, j'écris toujours, et je pourrais encore aimer. Jusqu'au bout, la tête haute, il faut poursuivre son chemin.
Nous ne savons pas ce que prépare la nuit prochaine. Nous ne savons plus ce qui était hier. Le souvenir seul reconstruit les instants. Je ne puis dire que j'ai vécu. Le temps se compose de fragments, de coups, de chocs, d'émotions, d'abattements. Le bonheur, trop violent, échappe à la conscience. Avec le recul, je me rends compte de mes périodes heureuses, les premières années avec Gol, les premiers mois avec mon jeune ami. Par la faute du destin et celui des hommes, il n'y a sur terre ni paix, ni sécurité. Survienne un cataclysme ou une guerre, et il faudra à nouveau déquerpir avec 20 kilos de bagages ou seulement un baluchon. Tout autour du globe, les atrocités n'en finissent pas. Même les cimetières ne fournissent plus d'abri, puisque déterrant les morts, les nazis ont profané les tombes. La vie est un songe que l'on traverse en somnambule. Une mousse risible ou un peu de brouillard pour envelopper des heures qui nous sont comptées. Un court moment, notre esprit occupe une housse gélatineuse. Il faut en tirer le maximum. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné beaucoup d'amour. J'en ai reçu plus encore. De mes nuits et de mes jours, c'est tout ce qui me reste. Je vous remercie.
Merci de votre attention.
Un grand merci, Nadine, pour cette présentation de Claire Vol qui était effectivement passionnante. Puis tout de suite, un grand, grand merci à Jean-François et à Nicole qui a accepté de remplacer Colette, absente aujourd'hui. Vraiment un grand merci. Voilà. Donc, merci. Et maintenant, je suppose que vous avez des questions. Des apports éventuellement à.
Oui, peut-être par rapport. Bernard pourra peut-être parler d'Audi Berthier, une biographie sur Audi Berthier.
Entamer une conversation, un échange avec Nadine.
Tu pourras compléter, Bernard.
Je ne sais pas si je peux compléter, c'est vrai.
Il y a pour apporter.
Les relations d'Audi Berthier et Claire Vol ont été un peu houleuses, puisque c'était un peu à sens unique.
Oui.
Audi Berthier était plus jeune, il était né en 1597, plus jeune que Claire Vol. Et Audi Berthier arrivait d'Antibes, tout frais ou moulu de sa province, et il commençait sa carrière de journaliste de chiens écrasés, carrière très très difficile pour lui. Et il était donc balancé un peu entre la femme qu'il venait d'épouser, puis en même temps il découvrait Paris. Et, voilà, il était émerveillé par Claire Vol, mais c'est peut-être un émerveillement à sens unique, auquel Claire n'a pas répondu. Mais effectivement, ce qui vaut des poèmes un peu hermétiques,
oui,
faut bien dire, hein, parce qu'ils ont paru en 1937 dans l'Empire et la Frappe. Recueil qui lui a quand même valu le premier prix Mallarmé de l'Académie Mallarmé, qui venait de se constituer. Et donc, oui, effectivement. J'ai réentendu cette lettre d'Audi Berthier qui disait « N'avez-vous pas reconnu ?» C'était vous qui disiez « Non, effectivement, on ne reconnaît pas. » Il faut vraiment les explications de l'auteur pour comprendre le destinataire. Mais à vrai dire, nul n'est besoin de savoir qui est Dany pour apprécier le poème en lui-même, même s'il est quelquefois un peu difficile. Oui. Fort heureusement, Audi Berthier a écrit d'autres poèmes par la suite un peu plus lisibles.
Oui.
Donc je vous engage bien sûr à lire ou à relire ou à redécouvrir Audi Berthier.
Voilà. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, ça permet de redécouvrir éventuellement même Rilke aussi où on en vit finalement.
C'est Rilke qui l'a soumis, Lilian.
Oui. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Claire, multiples prénoms, en effet. Alors, c'est vrai que c'est Clara, son prénom. Littérature, c'est Claire. Pour Yvan, c'était Claire. Clarisse, alors je note, hein, parce que dérivé de Claire, parce qu'il pensait à la sœur Clarisse, appartenant à l'ordre monastique fondé par Sainte Claire. C'est Claire qui emploie la première fois le prénom Clarisse sur un manuel scolaire. En 1906, elle écrit Clarisse. Non, donc je pense qu'elle avait déjà un problème finalement par rapport à son prénom, mais je crois que c'était très lié avec sa mère. Clara, donc, est son vrai prénom, et c'est vrai que c'était Liliane, alors des fois avec un E, sans E également. Liliane qui est la féresse de Liliane, hein, finalement, la liane qui s'agrippe, qui s'enroule, dont on ne peut se défaire. Liliane aussi, puis Neila. Neila, donc il y a le recueil qui Van Gogh a écrit Neila, qui est l'anagramme de Liane, donc ils ont beaucoup joué en effet. Et puis les petits noms, Suzu, Suzu, etc. Pour Rilke, c'était Liliane.
Et pourquoi Dany ?
Alors pourquoi Dany ? Alors aussi, c'était le personnage de titre d'une œuvre, apparemment. De, oui, d'Odi Liberti, apparemment. C'est ce qu'elle avait été. Non, c'est ce qui avait été noté, apparemment.
Je connais un peu Liberti, il me semble.
Non,
pas
non.
Reconnaître dans
le. Ah, ben alors, c'est ce qui était noté par rapport à Claire. Ce qui était noté. Ouais. Enfin, je ferai, ça permettra de compléter, de refaire des recherches.
Donc, voilà, recherches.
Ah, c'est très bien, ça permet de faire des recherches. Ouais, tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être. Paraître assez surprenant quand même, hein, la cruauté quand même. On comprend mieux le cheminement quand même de cette femme quand on dit c'est une femme égérie, certes, mais en quête d'amour toute sa vie.
Justement, quand j'ai annoncé la conférence sur Claire Gol, les échos, c'est « Oh, Claire Gol a été très méchante avec les hommes, vraiment. » En fait, c'est ce qui reste beaucoup.
Oui,
alors, on comprend que cette blessure... cela étant, j'aimerais quand même que tu parles, que tu rappelles, s'il te plaît, le différent avec Célan.
Ah, pour Célan. Oui, alors attends, je prends des notes parce que par rapport à Célan, c'est pas compliqué. Oui, mais Célan, c'est elle qui a fait beaucoup de tort par rapport à Célan, finalement. Et mais ça poursuit, hein, ça poursuit, parce que quand on parle d'Yvan Gogh, on parle de Célan, aussitôt, et il y a une forme de rejet. Alors, l'affaire Célan. Donc, je reprends mes notes parce que chaque fois... Donc, oui, merci beaucoup. À bientôt. Donc, en 1953, Paul Celan déclare avoir effectué donc, des traductions en allemand des œuvres d'Yvan Gogh, à la demande de ce dernier, et accuse Claire Gogh de les avoir utilisées en se les attribuant. Voilà. Mais c'est vrai que Claire n'était jamais... On va faire un mauvais jeu de mots, elle n'était jamais claire. C'est vrai que de ce point de vue-là, elle a beaucoup, nous, on a beaucoup travaillé sur les manuscrits, sur les dactylogrammes. En plus, comme elle était très possessive et très jalouse, elle n'hésitait pas, carrément, à s'attribuer les poèmes qui étaient destinés à Paula Ludwig. Ah ben oui, elle vivait très mal, finalement, cette relation. Donc, elle se les attribuait. Donc, on a réussi. Bon. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. D'autre part, Claire Gol accuse évidemment Louis Celan d'avoir plagié les poèmes dans l'œuvre d'Yvan. Donc il y a eu un rebondissement en 1960, un travail d'enquête qui a été mené pendant près de 4 années par l'université par Barbara Wiedemann, qui a publié Paul Celan en 2000. Alors là, il faudrait quand même, je vais faire un court résumé, mais je vous invite à lire dans le numéro de la revue Europe. Jean Berthaud a bien travaillé sur le sujet et il explique bien en effet le cheminement, comment ça s'est passé de façon très détaillée sur l'affaire Célan. Mais en résumé, Claire n'a pas supporté qu'Yvan nomme Célan, exécuteur testamentaire littéraire. Donc pour les chansons malaises, les élégies d'Ipetonga. Donc finalement, elle l'a accusé de plagiat tout simplement. Voilà. Et mais c'est terrible, parce qu'autant, c'est vrai qu'elle a consacré toute la fin de sa vie, comme elle le disait, pour être au service d'Yvan. Elle a fait un travail remarquable, c'est vrai qu'il a dû l'épuiser. Mais à côté de ça, elle lui a fait du tort aussi, parce que déjà, c'est difficile de travailler sur eux, parce que heureusement qu'on a quand même des traces écrites, puis qu'on connaît leur vie, et puis que, bon, Albert Ronsin, mon époux, qui l'a rencontré, Barbara aussi, donc on voit bien, on sait, il y a des enregistrements, on sait comment elle réagissait, mais c'est compliqué parce qu'elle n'hésitait pas, en effet, à s'attribuer, et même quelquefois à vouloir falsifier et à modifier finalement les choses. Donc, et je crois que ça fait aussi beaucoup de tort, nous qui essayons de publier aussi Yvan. C'est dommage, c'est vraiment très ambigu et très compliqué. Alors, évidemment, on peut comprendre la femme, en effet, qui, bon, voilà, c'est une femme qui était superbe, hein, qui était très très belle quand elle était jeune.
Elle était vraiment belle.
Oh, elle était très belle, une rousse. Alors, c'est vrai que je regrette, je travaille encore de façon ancienne, j'aurais aimé apprendre, faudrait qu'on mette l'ordinateur pour avoir, évidemment, des photos. Mais c'est une très belle femme, vraiment, elle est très très belle. Et, très rousse, avec une forte personnalité, et tout le monde était vraiment séduit. Donc, c'était une femme qui était quand même beaucoup adulée. Donc, elle a très très mal vécu souvent d'être rejetée, mais elle est même rejetée également aussi. Hein. Elle avait une forte personnalité. Mais je crois qu'elle avait très peur de s'attacher aussi, d'être dans l'attachement avec, avec un homme, parce que vu ce qu'elle avait vécu dès le départ, elle s'était jetée un petit peu. Bon, il y a eu le premier studer, il y avait un coup de foudre quand même. Mais ensuite, bon, elle était quand même, c'est normal, il y avait une méfiance quand même. Quand Yvan lui propose, elle fuit, elle part aussitôt à Zurich, elle a tellement peur. Non, non, surtout pas épouser, parce que si ça recommence, si je suis maltraitée, ça l'a poursuivie toute sa vie. Mais c'est vrai que, j'en reviens peut-être aux larmes pétrifiées, le dernier recueil, mais ses romans et ses nouvelles hein, sont très intéressantes à lire, hein, parce qu'elle fait une critique vraiment, vraiment à la loupe, quoi, de sociétale, c'est très intéressant.
Est-ce qu'elle va jusqu'au féminisme ?
Oui, oui, c'était une féministe avant l'heure, ah oui, c'est certain.
J'ai un peu frappé par la poursuite du vent, elle a quand même une revendication.
Ah oui, puis au niveau de la
sexualité,
ah, oui. Et puis c'était quand même très courageux. Alors évidemment, il y a eu énormément de railleries à ce moment-là, parce que c'était... En plus, elle l'a dit dans la poursuite du vent, mais elle l'avait annoncé aussi dans l'émission de Pivot.
Ah oui.
Et puis avec Clara Malraux, qui se trouvait là, qui était très amie avec les Malraux. Donc, et puis Clara Malraux a très mal pris. Mais je trouvais que c'était courageux. Je pense que c'est une femme qui était authentique, qui ne trichait pas. Donc finalement, ben pour elle, elle avait découvert le plaisir sexuel ben, à cet âge-là, et elle avait envie de le vivre, puis elle en avait profité pleinement. Et je trouve qu'en tant que femme, c'était une démarche finalement courageuse et intéressante.
Alors, c'est
monsieur Jaujard, c'est ça ? Oui, François-Xavier Jaujard.
J'étais conservateur.
C'était son père qui était conservateur du musée. Ah, ouais, c'est ça. C'était le fils du conservateur.
Et il y a une descendance, quoi ?
Non. 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 Lui est décédé. Bah, alors, on a toute leur correspondance, la médiathèque, mais que nous ne mettons pas entre toutes les mains. Non, on l'a gardé longtemps parce qu'on ne voulait pas, tant que François-Xavier Jaujard était vivant, c'est normal, on ne voulait pas. Mais c'est d'un érotisme flambant. C'est très beau, hein, mais oui, c'est l'enfer. Comme on disait dans les bibliothèques, vous savez, dans les médiathèques, on parlait de l'enfer. Oui. Non, mais maintenant, ça y est, il n'y a aucun souci, ça va être mis. On pourra aller travailler sur le dossier si on le souhaite.
Des recueils
Ah, c'est l'éternel problème avec Yvan et Claire. Notre gros souci, c'est de faire publier, en effet, Yvan et Claire. C'est très compliqué. On a, à l'étranger, oui, il y a même les œuvres complètes. Barbara, le RSE, qui était donc au musée Schiller à l'époque, continue et fait un travail remarquable en Allemagne. Ça, il y a beaucoup de publications. Mais pour Yvan et Claire en France, alors ça vient un petit peu. Bon, nous, au niveau des amis de l'association, on a quand même profité des événements de commémoration de 14-18 pour republier tous ces écrits pacifistes. Donc ça, c'était déjà un premier pas. On a le projet des poèmes d'amour, on a des projets d'une anthologie qui va peut-être se faire. Il y a, avec les hommes sans épaules, il y a aussi dans la revue des hommes sans épaules, il consacre, je crois que c'est pour l'année prochaine, 2023, oui, un numéro sur les poètes du Grand Est, dont Yvan Goll aura une très grande place. Alors peut-être que, voilà, on a prévu aussi une anthologie, on va essayer peut-être, voilà, mais c'est compliqué parce que, en plus, il a, sur un parcours de vie très court, hein, il est mort quand même très jeune. C'est très dense, hein, tout ce qu'il a publié. En plus, il appartenait quand même au mouvement surréalisme, expressionniste. Il a rencontré tellement d'artistes qu'il a fait publier dans l'anthologie des cinq continents. Il est parti aux États-Unis. En plus, c'était vraiment un humaniste. Et ce n'était pas tellement lui qui l'intéressait. Quand il s'est trouvé aux États-Unis, partout où il allait, ah, il voulait s'entourer. Il était vraiment à la pêche aux poètes pour pouvoir les publier, les faire publier. Et c'était souvent de sa poche, hein, franchement, oui. Donc, non, je pense que c'est une personnalité qui était vraiment extraordinaire, assez attachante, et puis vraiment qui s'était intéressé, c'était vraiment, oui, un intellectuel, qui s'était intéressé de très près à la Kabbale aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des textes qui sont plus ou moins occultes, plus difficile à comprendre, mais il y en a tant d'autres qui sont accessibles. Et il y a tout le cycle de Jean Santerre. Donc Jean Santerre, ah oui, ça, Jean Santerre, c'est remarquable. Le Requiem pour les morts pour l'Europe, c'est fantastique aussi.
ça on trouve sur internet.
Alors, quelquefois, oui. Alors, nous, on va essayer. Hein. Moi, il y a même des romans, Le Microbe de l'or, qui est d'une actualité en ce moment, là, que j'aimerais bien. Il y a des romans qui seraient intéressants. Il y a le Mathusalem, qui a écrit une pièce de théâtre qui est comparée à du Ionesco, qui avait été jouée à Paris à l'époque et à Berlin. Je me dis, un metteur en scène verrait ça en ce moment, l'aurait entre les mains, ça se jouerait facilement. Le tout, c'est d'avoir les relais. Donc, n'hésitez pas, chaque fois que je peux rencontrer des personnes, des poètes ou des amis qui s'intéressent à la poésie, et n'hésitez pas à parler d'Yvan. Si vous êtes tous un petit peu des relais, on y arrivera peut-être un jour. De toute façon, toute seule, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut, mais en plus, c'est une petite association, hein, donc, et nous sommes en province, en plus, c'est tout.
La correspondance avec Romain Rolland a été publiée ?
Non. Elle devait l'être, c'était Jean Berthaud qui voulait la faire publier chez Gallimard, et puis il y a eu un souci au dernier moment, ça ne s'est pas fait.
Elle est nombreuse, hein ?
Elle est assez importante, oui. Et avec Alain Bosquet aussi, il y a des choses intéressantes aussi. Il y a vraiment un gros dossier de correspondance avec Alain Bosquet.
Il y a des amis de Romain Rolland qui sont intéressés.
Mais peut-être, oui, il faut voir. Mais ce qui serait important, c'est d'avoir... je voudrais de la vulgarisation, vous comprenez, il faudrait que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est vrai que j'avais vraiment au départ, je reviens encore là-dessus, c'est vraiment pour moi un poésie Gallimard, pour moi ça me paraissait indispensable, surtout pour les poèmes d'amour qui sont faciles d'accès, vous avez vu, c'est quand même, et en plus c'est très beau, et puis c'est pas très cher, les ados pourraient se l'approprier, on en avait parlé avec Yannick à un moment donné, faire même proposer dans les lycées, dans les collèges, dans les CDI qui puissent... Il y a moyen de faire, mais alors c'est bien compliqué d'entrer chez Gallimard. Voilà. Bon, après, il y a d'autres éditeurs. Moi, ce que je voyais, c'était la diffusion. C'est ça qui est important, parce qu'au point où nous en sommes, il faut vraiment... J'ai presque envie d'aller assez vite, quoi. Et après, nous, on peut suivre, et puis ça ne nous empêcherait pas mais d'aller au contraire. Et puis moi, je trouve que ça... On en a le témoignage avec le marché de la poésie. On n'a qu'une envie, c'est d'aller vers ces petits éditeurs qui font un travail remarquable. Donc ça, il n'y a aucun souci pour ça. Mais là, je me disais, au moins, le Poésie Gallimard. Pour moi, le Poésie Gallimard, ça me paraissait essentiel. Alors, on va continuer à se battre, mais c'est pas toujours ça.
C'est difficile.
Mais il faut peut-être interrompre. Mais en tout cas, merci. Merci infiniment, vous tous, pour votre écoute. Et puis, merci aux deux lecteurs. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous trouver. Merci beaucoup. Et merci à Béatrice qui m'a invité.
Non, Nadine, ne ressens pas les rôles. Merci encore, parce que c'était passionnant. Donc maintenant, je vous souhaite à tous un très bon été. Et puis rendez-vous au mois d'octobre, le 8 octobre. Nous accueillerons Gérard Pochaudier qui nous parlera de Gustave Roux.
Voilà. Ah, Gustave Roux, c'est intéressant.
Et bon été à tous.
J'y vais. Oui, je vous ai pas encore envoyé l'info. Notre AG, c'est jeudi 30 juin. L'info, elle n'est pas encore envoyée à 20h. Jeudi 30.
D'accord, je vais vous voilà.
Merci
de venir. Merci de venir.
Je ne sais pas si c'était confirmé. Excusez-moi, tu sais, je suis en train de Jean Berthaud. Oui, j'y suis allée le voir hier matin.
Ah, oui, il est à ma parlance.
Oui, il est à ma parlance.
Je n'osais pas trop le déranger, je ne savais pas trop ce qu'il a dit. Il me semble très fragile.
Oui, il est très
aimé.
Il fatigue très vite. Bon, il est très entouré, heureusement. Mais oui, là, j'ai eu le grand bonheur de le revoir.
C'est bien. Bon, peut-être que je vais lui dire un truc, mais c'est pareil.
Alors, il n'entend pas.
C'est ça le problème. Je ne sais pas trop comment faire.
On peut essayer peut-être entre midi et deux, parce qu'il y a souvent la brave femme qui est au rez-de-chaussée, qui s'occupe de lui. Dans ce cas, elle l'aide à décrocher. Parce que c'est vrai, ou alors il met la
télévision. Vous voyez de temps en temps, mais là, je suis restée un moment, mais j'ai bien vu.